Les ondes du Havre secret. Présenté par Clésius Néofolk et Simon Quinard. Sur Westrack 95.9.
Salut les curieux et les curieuses.
Salut les amis.
Nous l'avons vu avec l'expérience de Fulton, le Havre, c'est aussi, et souvent, le point de départ de bon nombre d'inventions étranges. Étranges à l'époque, et pourtant devenues si courantes aujourd'hui. Je souhaiterais que nous poursuivions notre plongée dans le temps pour partir à la découverte d'une autre invention de génie. Une invention formidable qui a bien sûr fait escale au Havre.
Le Havre, c'est peut-être un terminus de train, mais c'est aussi un point de départ. Un formidable point de départ.
C'est donc sans surprise qu'en 1927, l'inventeur franco-ukrainien Georges Degasenko prépare aux abords du bassin du commerce, encore ce bassin aux inventions, le début d'une incroyable manœuvre entre Le Havre et Londres, par Dieppe et Boulogne. Une manœuvre à bord de sa puce de mer.
On met donc les voiles vers 1927, capitaine.
Affirmatif, 1927, quai Alexandre III.
Le Havre d'avant-guerre, j'adore. Mais enfin, j'irai pas me perdre une fois encore dans ces ruelles sombres.
Ah, des mauvais souvenirs ?
Bah, notre virée dans les souterrains du Havre pour comprendre les épidémies de fièvre typhoïde, oui, ça m'a pas laissé de marbre.
Allons, sois rassuré, nous ne quittons pas le bassin du commerce. Enfin, j'espère. Tiens, regarde là-bas. Tu vois ce drôle d'avion posé sur l'eau ? C'est la puce de mer. Les hommes à côté, ce sont les membres d'équipage. Celui avec la casquette et qui a l'air de bien rigoler, c'est Georges Degasenko.
C'est quoi ce drôle d'engin ?
Monsieur Degasenko qualifie lui-même son navire d'océanoplane. Le fonctionnement est assez simple, mais ingénieux. L'idée est de faire planer le véhicule à grande vitesse au-dessus de l'eau, un peu à la manière de ricochet. Attention, ce n'est pas un hydravion, c'est la puce de mer. Monsieur Degasenko s'est inspiré de la puce de mer qui a des pattes en forme de cuillère lui permettant de glisser sur l'eau. En réalité, elle ne touche jamais l'eau, reposant perpétuellement sur l'air de la surface.
C'est souvent de la nature qu'on tire les plus belles innovations.
Monsieur Degasenko a longtemps travaillé à ce prototype de puce de mer. Il ne s'agissait pas pour lui de faire quelques manœuvres acrobatiques sur un plan d'eau calme, mais bel et bien de gagner la pleine mer, d'affronter les hautes vagues et les vents puissants.
Approchons-nous du bord du quai, que je puisse décrire aux auditeurs l'océanoplane. C'est un navire à coque en bois de 13 mètres de long et de 7 mètres de large. Son tirant d'eau est d'à peu près 12 cm à quai.
12 cm, car le navire est à fond plat.
L'avant de la puce de mer est muni d'un éperon, brise-lame, et toujours à l'avant, un kiosque de pilotage permet aux commandants et aux pilotes de manœuvrer tout en sécurité.
Comme dans le Nautilus de Robert Fulton en 1800.
Enfin, en contrebas du kiosque, la cabine principale abrite un couchage pour 4 passagers, un cabinet de toilette, ainsi qu'une cuisine électrique.
Les plans techniques que j'ai trouvés indiquent que l'arrière du navire est aménagé pour accueillir un moteur de 180 chevaux, ou 450 chevaux, et ce moteur actionne une hélice quadripale.
Puce de mer dispose de 2 petites ailes.
L'idée n'est pas de la faire s'envoler, mais simplement de déjauger, c'est-à-dire sortir la coque hors de l'eau. Le maniement du navire est facilité par 2 ailerons arrière qui agissent sur les gouvernes de profondeur ainsi que de stabilisateur. À pleine vitesse, la coque et les flotteurs de puce de mer sont au-dessus de l'eau. Les 2 ballons latéraux permettent à la puce de mer de rester stable. Ces ballons agissent vraiment comme des stabilisateurs. Ils sont blindés et renferment du caoutchouc en nid d'abeille. Et dans ces ballons, on y a mis de l'hydrogène, qu'on insuffle depuis le poste de pilotage pour augmenter leur capacité de flottaison. À la manière de nos genoux, les stabilisateurs sont reliés de façon mobile à la coque, par 2 rotules liées par des élastiques aux propriétés similaires à nos tendons, permettant donc par là même au navire d'ajuster sa position par rapport au mouvement de la mer. Puce de mer n'a pas l'air comme ça, mais elle est d'une formidable stabilité.
Je vois le commandant dans le kiosque de pilotage. Il démarre le moteur.
Elle avance lentement pour l'instant. 10, 12 km à l'heure peut-être.
Suivons la puce de mer.
La voici hors du bassin, et elle s'engage dans le chenal. Le commandant augmente un peu la vitesse, 110, presque 120 km/h.
Il doit y avoir un bon chef mécano, non ?
Oui, le mécanicien assure le bon fonctionnement de l'engin. Regarde, le commandant pousse encore la vitesse. Il actionne les ailerons pour que l'océanoplane s'incline de manière à déjauger. La puce de mer joue sur ses rotules. Elle pivote légèrement et décolle de l'eau. Il n'y a plus que les stabilisateurs qui sont en contact avec la mer. La vitesse est élevée, la résistance est faible.
Eh, mais c'est que ça marche !
Vous écoutez les ondes du Havre secret sur Westrack 95.9.
Puce de mer enchaîne les succès depuis quelque temps déjà. En 1926, elle affronte une tempête en Méditerranée, mer connue pour ses violents coups de vent. L'océanoplane tient 7 heures sans broncher avec son moteur de 180 chevaux.
Et revenons au Havre. Puce de mer a largement réussi son coup d'essai, non ? Et si nous traversons la Manche à bord ?
C'est plus confortable que le Nautilus, je te suis. Regarde sur le plan, il y a eu quelques mises à jour faites par Degasenko. La puce de mer a troqué son moteur de 180 chevaux par un moteur cette fois-ci de 450 chevaux.
Vous vous en doutez, chers auditeurs, l'objectif sera de traverser la Manche en un temps record.
Bienvenue à bord de la Puce de Mer. Départ du Havre à destination de Londres, par Dieppe et Boulogne. Notre équipage est heureux de vous accueillir à bord. Tels auraient pu être les mots du fier équipage de pionniers s'élançant dans la grande aventure de la traversée de la Manche.
Et qui est cet équipage ?
Alors, André Lemoine, navigateur. Étienne Billon, mécanicien. Marcel Laroche, second pilote. Et enfin, bien sûr, Georges Degassenko, commandant et pilote. Marcel Laroche, le second pilote, racontera plus tard à la presse notre étonnant voyage. Je cite. « Nous avons d'abord procédé à des essais de moteurs entre Le Havre et Dieppe. Nous avons ainsi parcouru la distance de 100 km en 1h10. Et nous sommes venus nous amarrer dans le vieux port diepois. Nous avons suscité l'étonnement des marins qui n'avaient jamais vu un bateau du genre du nôtre. Il nous restait ensuite à faire un essai de stabilisation. Nous avons choisi le parcours Dieppe-Boulogne. Nous avons quitté Dieppe le 31 août à midi, par un fort vent du nord-ouest. Et, le 1er septembre, à minuit 55, nous entrions à Boulogne après 12h55 de navigation très dure, dont une partie de nuit. Ainsi, successivement, nous avions battu deux records. Le record du monde de durée en mer pour un hydroglisseur, et le record du monde de la distance en mer également pour hydroglisseur. Il ne nous restait plus qu'une étape à franchir, traverser la Manche. Et c'est ce que nous fîmes le 23 septembre, en 26 minutes. Fin de citation.
Incroyable.
Outre la prouesse technique, il s'agit d'un événement tout à fait symbolique. Il est déjà question, dans les années 20, d'un tunnel pour rapprocher le continent de l'Angleterre.
Ou le contraire. Ça dépend de votre point de vue.
Oui, c'est pas faux. Or, nul besoin d'une liaison sous-marine si la liaison peut se faire par la mer en un temps record. L'équipage de la Puce de Mer est accueilli à Londres de manière triomphale. Les Anglais se disent qu'un tel engin serait très efficace pour remonter la Tamise, par exemple. Néanmoins, ce n'est pas là la vision du futur de la Puce de Mer qu'a de Gassenko.
J'imagine qu'il voit grand, c'est un visionnaire.
Tout juste. Il faut construire un autre océanoplane. Non pas pour 4 passagers, ni même pour 5, mais pour 150 personnes. Il ne faudra pas traverser la Manche, ni même la Méditerranée, mais l'Atlantique.
Et c'est encore une grande histoire qui prend naissance dans le port du Havre.
Toutes ces inventions ont côtoyé les mêmes eaux, celles de notre grand bassin du commerce, dans lequel seul un triste ponton solitaire flotte aujourd'hui. Peut-être avons-nous fait de la place pour les inventions de demain.
Ou peut-être avons-nous tout simplement oublié à quoi servait un bassin.
Peut-être un jour reverrons-nous de splendides embarcations peupler notre bassin dit du commerce. Pour ma part, je préfère l'appeler le bassin aux inventions, ou encore mieux, le bassin de l'avenir.
Allez, un petit mot pour la fin.
Pour Monsieur Degassenko, oui. Réalisez d'abord, parlez ensuite. Pour écrire cette émission, je me suis basé sur les archives municipales du Havre et leurs almanachs, ainsi que la presse ancienne sur le site Retro News. Salut les curieux et curieuses.
Ciao tout le monde.
C'était Les Ondes du Havre Secret, sur Westrack 95.9. Retrouvez Simon et Clésius sur la chaîne YouTube Les Dossiers du Havre Secret et sur les sites internet www.havre-secret.fr.